Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Capot Diamant et Québec Oiseau. Au programme, un autre manuscrit oublié de notre histoire. Et la paruline à tête cendrée. Bonne écoute.
Un autre manuscrit oublié de notre histoire, le journal de Jean-Baptiste Minet, 1661-1694, un texte de Martin Lavallée, paru dans la revue Capot Diamant, été 2020, numéro 142. Pour apprécier pleinement la valeur des documents relatant la genèse de la Nouvelle-France, il faut se remettre dans le contexte des premiers Français arpentant ce nouveau continent, étranger et sauvage. Qu'ils aient été ici pour évangéliser les peuples autochtones, pour trouver une route vers l'Asie, pour s'enrichir grâce au commerce des pelleteries, ou simplement pour partir à l'aventure, ils ont tous été confrontés à une réalité nouvelle, celle de se retrouver dans un monde inconnu où tout est à découvrir et à connaître. Pour ces Européens des XVIe et XVIIe siècles, s'improvisant parfois écrivains, cartographes, botanistes, naturalistes ou ethnologues, toutes les observations et les informations recueillies revêtaient donc un intérêt capital et devaient être consignées pour faire état de l'avancement des découvertes et des connaissances. C'est ce que firent notamment Jacques Cartier, Samuel de Champlain, les Jésuites dans leurs relations, ou encore Bacqueville de la Poterie dans son Histoire de l'Amérique septentrionale. Malheureusement, tous les manuscrits rédigés alors n'ont pas eu la chance de connaître la postérité de ces œuvres majeures de notre histoire. Certains ont été détruits, d'autres, pour diverses raisons, ont peu intéressé les chercheurs, tandis que d'autres encore sont tout simplement tombés dans l'oubli et attendent patiemment d'être redécouverts pour transmettre ce qu'ils recèlent. Ce numéro, consacré au Codex Canadensis, est l'occasion de nous pencher sur un de ces documents oubliés, rendant compte de ce qu'ont vu et vécu les premiers Français à fouler le sol de l'Amérique. Le document en question a été vendu au sein du même lot que le Codex de Louis-Nicolas en 1934. Il s'agit d'un récit du voyage au Mississippi et dans le golfe du Mexique du célèbre explorateur René Robert Cavelier de La Salle, rédigé par un auteur dont on sait toutefois peu de choses, l'ingénieur Jean-Baptiste Minet. L'itinéraire sinueux d'un journal. Ce document a connu un parcours singulier et plusieurs zones d'ombre subsistent en ce qui le concerne. Entre sa rédaction en 1684-1685 et le début du XXe siècle, nous ne savons à peu près rien à son sujet. Minet envoie bien, en 1685, un rapport de son voyage dans le golfe du Mexique au ministre de la Marine Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, mais celui-ci n'est qu'une synthèse de son manuscrit original. Ce rapport a d'ailleurs été repris par l'archiviste français Pierre Marc-Gris dans le tome 2 de son étude de 1878 intitulé « Découvertes et établissements des Français dans l'Ouest et dans le Sud de l'Amérique septentrionale, 1614-1698 ». Le manuscrit original refait finalement surface à Paris en 1934, au sein du catalogue de vente de l'expert-libraire Georges Andrieux, avec d'autres manuscrits relatifs au début de la présence française en Amérique. Parmi ceux-ci, comme nous l'avons dit, on comptait le fameux Codex Canadensis, mais aussi un autre récit du voyage de Cavelier de La Salle dans le golfe du Mexique, celui d'Henri Joutel. Nous sommes toutefois dans l'incapacité d'identifier l'acheteur du journal de Minet au cours de cette vente aux enchères. Les archivistes canadiens en font par la suite l'acquisition en 1981 auprès d'une Américaine, une certaine Emily Driscoll, qui affirme alors le posséder depuis fort longtemps. Sa famille a dû l'acheter à Paris. C'est la thèse la plus vraisemblable, selon l'ancienne archiviste de Bibliothèque et Archives Canada, BAC, Victorin Chabot. Quoi qu'il en soit, il repose toujours à BAC, où il a été numérisé, puis rendu disponible sur le site web de l'institution. Il s'agit donc d'une source de première main sur deux importantes expéditions de l'un de nos plus grands et controversés explorateurs, en même temps qu'un authentique récit de voyage qui fournit des informations précieuses pour les historiens. Le manuscrit est connu aux États-Unis, où il a été édité en anglais par Robert S. Weddle et publié par Texas A&M University Press. On ne peut toutefois pas en dire autant pour le Québec, où ce manuscrit n'a pas beaucoup été utilisé par les historiens de la période. Vous écoutez un autre manuscrit oublié de notre histoire, le journal de Jean-Baptiste Minet, 1661-1694, un texte de Martin Lavallée, paru dans la revue Cap au Diamant, été 2020, numéro 142. Qui était Jean-Baptiste Minet? Le peu d'éléments biographiques que nous possédons sur Jean-Baptiste Minet provient des travaux de l'historienne Anne Blanchard, qui s'est intéressée aux ingénieurs militaires des XVIIe et XVIIIe siècles en France. La vie de Minet, ingénieur et cartographe de métier, fut de courte durée. Issu de la petite bourgeoisie parisienne, il naît à Paris en 1661 et meurt en service durant les combats de la guerre de la Ligue d'Augsbourg dans la ville de Palamos en Catalogne espagnole en juin 1694. Il se marie à Nîmes en 1689 à Marie Mainberg, mais n'a pour enfant qu'un seul fils, qui meurt en bas âge. En ce qui a trait à sa carrière, nous savons qu'il a réalisé d'importants travaux d'infrastructure en France, parfois sous la direction de Sébastien Lepestre, marquis de Vauban, comme ceux de la citadelle de Nîmes, qui abrite aujourd'hui l'université de la ville, ou encore ceux sur le canal du Midi. Nous savons également qu'il est venu en Amérique grâce au journal qu'il rédige en 1684-1685. Ce journal se divise en deux parties. La première, 61 pages, se penche sur le voyage de Cavelier de La Salle au Mississippi, auquel Minet ne prend pas part, et la seconde, 78 pages, se consacre à son expédition dans le golfe du Mexique, à laquelle cette fois-ci, Minet participe. L'expédition de Cavelier de La Salle au Mississippi, 1678-1682. Minet explique lui-même en introduction de son premier manuscrit qu'il n'est pas de cette expédition au Mississippi. Ce sont deux hommes ayant participé au voyage, Nicolas de La Salle, aucun lien de parenté avec l'explorateur, et Gabriel Barbier, qui ont relaté les faits à Minet, qui s'est chargé de les consigner. En 1684, trouvant la traversée de l'Atlantique particulièrement longue, il passe son temps à rédiger son manuscrit, après avoir constaté une dissemblance entre la version des deux hommes et celle relatée par Cavelier de La Salle à la cour. Peut-être avait-il également d'autres motivations, car, comme nous le verrons plus loin, les rapports n'étaient pas des plus harmonieux entre Minet et Cavelier de la Salle, mais Minet est avare de détails sur ce point. Commencé en 1678, ce voyage de La Salle au Mississippi est la continuation des découvertes entreprises par Louis Joliette et par le père Jacques Marquette. La Salle, protégée du gouverneur Louis de Buade, comte de Frontenac, est chargée par le ministre Colbert de descendre le fleuve, qu'on appelait justement le Colbert à l'époque, pour en trouver l'embouchure. Cette expédition mène La Salle jusqu'au delta du Mississippi dans le golfe du Mexique. Au passage, il prend possession du territoire et fonde la Louisiane, qu'il nomme en l'honneur du roi de France. Ce premier manuscrit du journal de Minet, en plus de fournir des informations sur la vie quotidienne de ses voyageurs, décrit donc ce moment historique qui est le fait le plus marquant de la carrière de La Salle, soit celui de la découverte de l'embouchure du Mississippi, non pas dans la mer Vermeille, océan Pacifique, comme certains le pensaient à l'époque, mais bien dans le golfe du Mexique. Minet ponctue d'ailleurs son récit de deux cartes, dont l'une détaille le delta du Mississippi, page 59, et l'autre, l'emplacement du fort Frontenac, aussi appelé fort Cataraqui, aujourd'hui Kingston, page 9. Fondé par La Salle en 1673 sur l'ordre du gouverneur éponyme, ce fort servait à la traite des fourrures. Le manuscrit contient également deux dessins représentant un calumet, page 29, et un autochtone nu, tenant un arc et une massue, page 61. Ils accompagnent le récit de la rencontre entre l'expédition de La Salle et des tribus autochtones, notamment les Akanseas, qui vivaient sur les bords du Mississippi, dans ce qui est aujourd'hui l'État d'Arkansas. Minet y décrit de façon détaillée leurs mœurs et les cérémonies auxquelles prirent part La Salle et ses hommes. Vous écoutez un autre manuscrit oublié de notre histoire, le journal de Jean-Baptiste Minet, 1661-1694, un texte de Martin Lavallée, paru dans la revue Cap au Diamant, été 2020, numéro 142. Voyage dans le golfe du Mexique, 1684-1685. S'il n'est pas du premier voyage, Jean-Baptiste Minet est par contre présent lors d'une partie du voyage de La Salle dans le golfe du Mexique de 1684 à 1687. Cette expédition est le fruit du projet que La Salle a soumis au ministre Colbert, fonder une colonie à l'embouchure du Mississippi en passant cette fois directement par le golfe du Mexique depuis la France. Comme le souligne Céline Dupré dans la biographie qu'elle consacre au découvreur et comme le relate Minet au début de son récit, La Salle exagère certains faits et fait miroiter de nouvelles conquêtes au ministre pour mettre en valeur son projet. Il propose notamment de prendre possession, avec l'aide des Amérindiens, des mines espagnoles du Nouveau-Mexique. Peut-être motivé par ses promesses, le ministre et le roi Louis XIV acceptent de financer l'expédition qui se met en branle en 1684 avec 4 navires et 320 personnes pour installer la nouvelle colonie. Minet est du nombre, à titre d'ingénieur hydrographe, mandaté par Colbert et aux ordres de Tanguy le Gallois, sieur de Beaujeu, le capitaine d'un des 4 navires du voyage, la Jolie, une frégate de la Marine royale. On sait que ce projet échouera. La salle n'arrivera pas à retrouver l'embouchure du Mississippi et s'écartera trop à l'ouest vers le Texas. L'expédition se soldera par un échec qui culminera avec l'assassinat de La Salle par cinq de ses hommes en 1687. Dans son journal, en plus de décrire la topographie du territoire qu'il parcourt, Minet consigne avec minutie les événements du voyage jusqu'en mars 1685. C'est le moment où, las de chercher l'embouchure du fleuve et à court de vivres, il décide, avec le capitaine Beaujeu et son équipage, d'abandonner La Salle pour retourner en France. Lorsqu'il revient à La Rochelle en juillet 1685, Minet est emprisonné une quarantaine de jours pour désertion. Il termine de rédiger son journal en prison ou dans les semaines qui suivent son emprisonnement, car son arrestation est décrite dans le manuscrit. Son récit met en lumière les mauvaises relations que lui et le capitaine Le Gallois de Beaujeu ont avec La Salle. Minet termine son journal par une série de questions posées à l'explorateur dans lesquelles il lui fait implicitement certains reproches. Il faut peut-être attribuer ces interrogations à la rancune de Minet et soupeser certaines d'entre elles, mais il n'y a pas lieu de croire que les faits et les événements décrits dans les manuscrits sont biaisés ou mensongers. Ce récit de voyage est complémentaire de celui d'Henri Joutel, qui était un lieutenant fidèle du découvreur, car il donne un autre point de vue sur l'ultime expédition de Cavelier de La Salle en Amérique. La Salle et les Jésuites. Un aspect particulièrement intéressant du récit de Minet tient dans les rapports troubles entre le découvreur et l'ordre des Jésuites qu'il met en évidence. Le portrait de La Salle dressé par Minet est celui d'un homme méfiant qui soupçonne la Compagnie de Jésus de vouloir saboter son expédition. Selon Minet, l'homme avoit toujours cinq ou six espions sur le pont. En outre, les deux manuscrits composant le journal font état de plusieurs moments où La Salle s'en prend verbalement aux Jésuites ou tente de leur tendre des pièges. Minet se demande d'ailleurs, à la page 69 de son second manuscrit, « Pourquoi dire tant de mal des Jésuites ?» Appuyé à la cour par Claude Bernoux, un récollet, et par l'abbé Eusèbe Renaudot, un janséniste hostile aux Jésuites, et accompagné dans ses voyages au Mississippi par les missionnaires récollets Zénobe Mambré et Louis N. Pain, La Salle, un ancien jésuite défroqué, était-il au sein d'un conflit entre récollets et jésuites pour le contrôle des explorations et des missions en Nouvelle-France? Pour répondre à cette question, une étude plus poussée sur La Salle serait nécessaire, mais les manuscrits de Minet permettent de le penser. Le retour des récollets en Nouvelle-France en 1670 avait d'ailleurs pour principal motif de renforcer le pouvoir royal dans la colonie, en contrebalançant le pouvoir acquis par les jésuites depuis qu'ils avaient été les seuls autorisés à revenir dans la colonie après la restitution de la Nouvelle-France à la France en 1632. Le gouverneur Frontenac, syndic apostolique des récollets et protecteur de La Salle, se chargera de contrebalancer ce pouvoir et entretiendra lui aussi des rapports tendus avec les jésuites. Pour autant, La Salle avait-il des raisons valables de penser que les disciples d'Ignace de Loyola voulaient saboter sa mission? Quoi qu'il en soit, ironie du sort, peu de temps après l'échec de l'expédition de La Salle dans le golfe du Mexique, dans un mémoire remis au marquis de Seignelay, les jésuites se proposent de réussir là où La Salle a échoué. Martin Lavallée est historien de formation. C'était un autre manuscrit oublié de notre histoire, le journal de Jean-Baptiste Minet, 1661-1694, un texte de Martin Lavallée, paru dans la revue Cap au Diamant, été 2020, numéro 142.
Belle en toute saison, La Paruline à tête cendrée. Un texte de Philippe Blin, paru en automne 2021, volume 33, numéro 1, dans le magazine Québec Oiseau. Parmi nos parulines du genre Cétophaga, ces saltimbanques hyperactifs de la forêt boréale, la paruline à tête cendrée se distingue par la netteté du plumage contrasté qu'elle affiche toute l'année. Alors que plusieurs de ses cousines nordiques endossent une tenue imprécise et terne à la fin de l'été, telles les parulines à croupions jaunes, rayées et à poitrine baie, la paruline à tête cendrée demeure vivement marquée de jaune sur la poitrine et le ventre, tout en conservant ses marques blanches à la queue et aux ailes. Par conséquent, l'observateur a rarement du mal à l'identifier, quelle que soit la saison. Son chant court et rapide, composé de 6 ou 7 notes modulées, ressemble à un jingle commercial. Pour peu qu'on ait pris la peine de l'apprendre, on ne l'oublie plus. Une famille récente. Certains observateurs ont été étonnés d'avoir vu les parulines reculer presque au dernier rang dans l'ordre de classification systématique, après les bruants et les ictéridés qu'elles précédaient pourtant par le passé. Ce déplacement est le résultat d'études récentes et témoigne de la difficulté de départager des groupes d'oiseaux apparus presque simultanément dans un temps géologique très court. Les premières parulines se sont développées brusquement dans l'évolution à la fin de l'ère tertiaire. Leur radiation, c'est-à-dire leur diversification accompagnée du phénomène de spéciation, a été parmi les plus rapides du monde aviaire. Elle leur a permis de s'adapter à des habitats très variés en Amérique du Nord, qu'elles sont parvenues à coloniser au gré des avancées et des reculs des glaciations, puis à se disperser en Amérique du Sud. Avec le temps, cette famille en est venue à occuper une position dominante en Amérique du Nord, et notamment chez nous. Les parulines du genre Cétophaga, en particulier, ont connu un épisode de diversification presque explosif qui les a fait passer en relativement peu de temps d'une seule espèce ancestrale à plus de 34 actuellement. Au Québec, la diversité de notre trentaine d'espèces de parulidés s'exprime non seulement par le plumage, le chant et l'habitat, mais aussi par le mode d'alimentation. Alimentation à la roitelet. Si la plupart des parulines s'alimentent en glanant des larves rampantes ou en voletant pour capturer de petits insectes volants, certaines vivent au sol et se nourrissent comme les grives, telles les parulines couronnées et des ruisseaux, tandis que la paruline noire et blanc rappelle une citelle par ses déplacements et son alimentation. La paruline à tête cendrée, quant à elle, se nourrit en glanant des chenilles et des coléoptères sur et sous les ramilles et les feuilles, à la manière des roitelets. Habitat de nidification, au premier étage, s'il vous plaît. Dans son aire de distribution estivale, la paruline à tête cendrée ne se rend pas aussi loin au nord que d'autres congénères. Cette aire ne dépasse pas beaucoup le 50e parallèle au nord, contrairement à celle des parulines obscures, rayées et à croupions jaunes. En revanche, elle niche couramment dans les peuplements mixtes de bien des régions habitées du sud du Québec. En forêt boréale, beaucoup de parulines sont sympatriques, c'est-à-dire qu'elles partagent le même territoire. Cela ne les empêche pas d'avoir des préférences marquées en ce qui concerne le type de peuplement végétal qu'elles fréquentent pour se nourrir et celui qu'elles choisissent de construire leur nid, ainsi que la hauteur où elles se tiennent dans les arbres. La paruline à tête cendrée n'aime pas particulièrement les hauteurs. Pour nicher, elle élit domicile à quelques mètres du sol, dans un jeune peuplement dense de conifères, comme on en trouve à un stade précoce de la succession forestière. Comme chez beaucoup de passereaux, la femelle couve seule, mais les deux parents assurent l'alimentation des oisillons. Le Mexique ou Cuba. Puisqu'elles sont essentiellement insectivores, toutes nos parulines sont migratrices. Toutefois, chez les hivernantes les plus nordiques, la paruline des pins et la paruline à croupion jaune, quelques individus parviennent parfois à passer l'hiver ici en modifiant leur régime alimentaire, mais c'est vraiment l'exception. En hivernage, les parulines doivent choisir entre les Antilles et le continent, et beaucoup d'espèces optent presque exclusivement pour une seule des deux destinations. Ainsi, la paruline à flanc marron et la paruline jaune vont passer l'hiver uniquement en Amérique centrale et du Sud, tandis que la paruline tigrée et la paruline bleue sont caribéennes. En français, le terme « Caraïbes » inclut la côte de la mer des Caraïbes, où se rencontrent également ces espèces. En revanche, certaines espèces se rendent indifféremment dans les îles ou en Amérique latine, comme la paruline à tête cendrée et quelques autres. Particulièrement adaptable et apte à coloniser les friches de conifères qui succèdent aux parterres de coupes forestières, la jolie paruline à tête cendrée, vive et colorée, devrait continuer longtemps d'égayer les forêts du Québec avec son plumage et son chant, et de nous charmer lors de ses passages migratoires dans nos jardins, où elle s'active souvent à la hauteur de nos yeux. C'était « Belle en toute saison, la paruline à tête cendrée », un texte de Philippe Blin, paru en automne 2021, volume 33, numéro 1, dans le magazine Québec Oiseau.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Jocelyne Langevin à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.